Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants.
Bonjour et bienvenue à ce cinquième chapitre de la troisième saison des Dérangeants. Je m'appelle Patrick Marsolais et je vous remercie d'être à l'écoute. Je pense qu'on a un beau programme aujourd'hui. D'abord, pour ce premier épisode en 2020, on reçoit le président du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier, qui a eu, on m'a dit, une année 2019 quand même pas toujours reposante. Et d'ailleurs, je tiens à vous avertir, là, c'est une entrevue qu'on a enregistrée à nous le 29 octobre dernier, alors que la tempête, bien évidemment, n'était pas encore tout à fait terminée. Il y a le thème du podcast également aujourd'hui, un peu plus haut, toujours plus gros aussi. C'est correct à un moment donné de viser peut-être un peu moins haut. On va s'en reparler avec nos dérangeants qui sont aujourd'hui donc la fondatrice de Chic Marie, Marie-Philippe Simard, qui est avec nous.
Allô.
Marie-Claude Duquette, qui est présidente du groupe Triton.
Bonjour.
Et notre super-héros, David Côté, qui est avec nous aujourd'hui.
Yeah.
Yeah. On va débuter avec Marie-Claude, tiens, pour les coups de cœur et les coups de gueule.
C'est encore un coup de cœur.
Ça a l'air gêné.
Je suis comme heureuse d'être contente d'avoir un coup de cœur. Dans le fond, je vais parler d'un projet que j'ai mis, que j'ai travaillé avec une amie, Élise de Minimaliste. Fait que salut, Élise. On a travaillé un projet inspiré de mon ami David de Juloupe. Ouais. Un petit projet d'économie circulaire pour venir en aide à des jeunes désirant vouloir aller à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Enfin, des jeunes, ils ont un camp de jour. On se disait, c'est trop facile, signer un chèque puis envoyer des jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire puis créer plus d'impact? Fait que le projet, c'est avec la pénurie de main-d'œuvre puis les peak season, on a décidé de venir en aide à des entreprises en donnant du temps. Fait qu'on envoie des entrepreneurs de ma cour, de l'école. Fait que nous, de notre côté, on fait du team building. Fait qu'on échange, on croit ensemble, on aide une entreprise, puis l'argent qu'on ramasse, parce qu'on est payé, puis l'argent qu'on ramasse, ça s'en va à notre bourse, puis la bourse va permettre à des jeunes d'aller au camp de jour. Donc, j'envoie cet appel à partir de janvier. On cherche des jeunes. Donc, si vous connaissez des projets dans les écoles secondaires, des projets entrepreneuriales, écrivez-moi parce qu'on aimerait ça recevoir des belles candidatures.
Belle initiative, c'est cool, ça, bravo.
En fait, j'ai un double coup de cœur aujourd'hui. J'ai un coup de cœur pour ma business partner, qui est aussi ma copine. Ça aide pour le coup de cœur, mais c'est pas à cause de ça. C'est vraiment parce que c'est ma partner. Puis un coup de cœur pour le gouvernement du Québec. Pourquoi les deux ensemble, en fait? C'est parce que moi, je suis incapable de remplir des grands documents pour faire des demandes de subventions. Mais Julie est vraiment bonne là-dedans. Puis jusqu'à aujourd'hui, avec mon entreprise, depuis 3 ans, j'ai calculé qu'on a accumulé en bourse non remboursable 900 000 $ Puis on va bientôt recevoir un autre 100 000, je pense. Fait qu'on va atteindre 1 million de $ de bourses non remboursables. Puis je parle à du monde des entrepreneurs qui sont ailleurs qu'au Québec, là. Puis ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas accès à autant de subventions, des concours entrepreneuriales, des bourses pour les jeunes en affaires, etc. Il y en a tellement des bourses au Québec pour l'immigration, pour l'automatisation, il y en a plein. C'est malade. Si t'es un peu académique, puis tu prends le temps de les trouver, puis de les remplir, parce que ça, c'est beaucoup de travail quand même le faire, ça paye vraiment. Fait que bravo au gouvernement du Québec et bravo à ma conjointe qui est écœurante pour remplir des demandes de subventions.
Donc, tu as deux coups de cœur pour commencer. Est-ce qu'on termine ça avec un coup de gueule ou un coup de cœur, Marie?
Coup de gueule!
Bon!
Il faut que je reste cohérente. Mais je vous explique. Il y a à peu près 6 mois, on reçoit un appel de l'Office de la protection du consommateur, puis ils nous disent, écoutez, Mme Simard, avec Chic Marie, on a reçu un nombre très élevé de plaintes à l'Office, à peu près une cinquantaine. Puis, on ne comprend pas, donc on va être obligé de vous envoyer un avis d'infraction. Bon, des plaintes à l'office, ça, c'est quand un client se plaint puis il dit que la compagnie a fait quelque chose de frauduleux. Nous, là, par année, quand on en reçoit une, des fois, c'est à zéro, là, c'est le maximum. Fait qu'on a peut-être reçu 5-6 au max. Puis là, je parle à la madame, qui est semi-courtoise, puis je dis, là, ça se peut pas, il doit y avoir une erreur parce qu'on les a poursuivis.
Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas. C'est moi qui ai fait une quinzaine de plaintes.
Mais c'est ça.
J'étais fâché l'autre fois.
Non, mais attends, je m'en vais exactement là. Fait que là, je dis, ça marche pas.
T'avais pas tes robes, Daniel?
J'avais pas mes robes dans le cas.
Il était tanné, c'était l'hiver, ça marche pas. Fait que là, je dis à madame, puis vous m'envoyez les documents. Quand t'es un commerçant puis t'appelles à l'office, t'es un peu le démon. Fait qu'ils veulent rien savoir. Fait que là, il a fallu que ce soit mes avocats qui appellent pour avoir les documents. Puis là, on reçoit ça, puis on regarde ça. Puis sur à peu près 48 dossiers sur 50, on n'a pas eu de client à ce nom-là, ni à ce numéro de téléphone-là, ni à cette adresse-là, ni à cette adresse courriel-là.
Ben voyons donc.
Fait que là, je rappelle la madame. Je dis, madame, ça marche pas, là. Il y a de quoi qui marche pas. Il y a eu du en erreur. Puis dans les dossiers, écoute, il y a des gens qui demandaient des remboursements pour des kits à cuisiner.
pas des cuites à cuisiner, là, manifestement. Là. Fait que là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne sais pas si c'est une erreur informatique ou un fin finot qui a fait des fausses plaintes ou quoi que ce soit, mais ça ne marche pas. Enlevez-les. Elle a dit non, on se fie au consommateur. Si vous n'êtes pas content, allez au protecteur du citoyen. Ça, en gros, ça veut dire laisse-moi tranquille, crise-moi patience. Fait que là, les gens auraient lâché le morceau. Tu comprends? Bon, c'est pas grave, c'est les choses qui arrivent. Ça me tentait pas. Fait que là, dans mes temps libres, pendant une semaine, j'ai appelé l'office avec un faux numéro de téléphone, fausse adresse courriel, fausse adresse, et j'ai déposé 30 plaintes.
À moi.
Pas la ville. Mais dans plein de business, je les ai enlevées, là, je vous rassure, là, pour pas que ça affecte qui que ce soit. Mais j'étais capable, en une semaine, moi-même, tout seul, de déposer 30 plaintes à l'office. Les appels ont duré 2 minutes, en moyenne. Ils m'ont jamais demandé si j'avais un contrat, jamais demandé de preuve de livraison, jamais demandé rien, puis ils ont toutes déposé. J'ai reçu les confirmations de ça. J'ai rappelé madame. J'ai dit, madame, là, j'en ai déposé 30, là. Faites de quoi? À raccrocher. On n'a pas reçu d'avis d'infraction. Je ne sais pas s'ils ont été enlevés, mais c'est drôle parce que j'en ai parlé avec d'autres amis entrepreneurs. Puis effectivement, il y en a qui sont allés voir leur dossier à l'office, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait eu aussi des fausses plaintes.
Mais est-ce que ça pourrait être à ce moment-là, quoi, des plaintes faites par la compétition de Chic Marie?
Je ne sais pas. Mais sûrement parce qu'après ça, à l'office, ça paraît pas bien. Fait que là, les clients vont voir ça. Ils voient que tu as beaucoup de plaintes. Ils disent, ben là, tu es une entreprise frauduleuse. Fait qu'on va pas aller avec toi. Fait que c'est un très bon moyen, tu sais, de nuire à ta réputation. Mais c'est sûrement. C'est sneaky.
C'est déloyal.
C'est très sneaky.
Et c'est des choses qui peuvent arriver dans l'entrepreneuriat.
Oui. Wow. La semaine prochaine, on va voir sur qui je me plains.
Ah oui. Ben merci pour ce conseil coup de gueule, Marie. Ouais. Êtes-vous prêt pour accueillir le président du mouvement Desjardins?
Ouais?
Oui.
Oui. Bon, vraiment. Parfait. Alors, Guy Cormier est avec nous dans quelques instants.
Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée puis un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le Wi-Fi d'un café, manger du beurre de peanut. Mais quand on a un produit à développer, un site web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurpreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 $ et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte info@commercialfuturpreneur.ca.
Les dérangeants.
L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'œuvre vous donne des maux de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca.
On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir un leader d'exception qui est devenu en 2016 le plus jeune président de l'histoire du mouvement Desjardins. Guy Cormier, bienvenue dans Les Dérangeants.
Bien, bonjour, très content d'être avec vous. Merci de l'invitation.
Bien, merci de l'avoir accepté. Le thème aujourd'hui de l'épisode, c'est la croissance en affaires. Mais la croissance en affaires, c'est une chose. La croissance personnelle, c'en est une autre. Puis je voulais qu'on débute peut-être avec ça. Je me demandais si Guy Cormier est un homme différent après une année comme celle que Desjardins a connue en 2019. Qu'est-ce que ça amène au niveau personnel?
Ben, plusieurs choses. Hein. Personnellement, premièrement, là, quand tu vis l'été que j'ai vécu, que le mouvement Desjardins a vécu, c'est un, tu réalises que quand tu diriges une organisation, tu ne choisis pas tes tempêtes, là. Quand la tempête a décidé d'arriver, là, c'est pas toi qui l'a vu venir tout le temps, puis c'est pas toi qui la décide. Alors, un, c'est quoi la posture que tu vas prendre face à cette tempête-là? Deuxième chose, dans la vie de tous les jours, dans la gestion, dans la direction de nos entreprises ou juste dans une situation comme on a vécu cet été, l'honnêteté, la transparence, communication, être authentique, c'est des clés, l'intégrité. Moi, ça l'a juste réaffirmé comment c'est important quand on est dans une position de leadership d'incarner qui on est, cette dimension-là très humaine. Puis troisièmement, bien, on ne passe pas à travers des situations comme on a vécu tout seul. Ça prend une équipe. Puis moi, j'ai eu le privilège d'avoir 45 000 employés qui, à un moment donné, 3 000 administrateurs de caisse qui ont mis l'épaule à la roue et qui, tout l'été, se sont mis à rassurer des membres, rassurer des clients. Aujourd'hui, on est à l'automne et puis plusieurs de nos membres se disent rassurés par tout ce qu'a fait Desjardins cet été.
Est-ce que toute la gang a suivi dans cette tempête-là? Ah, comment vous restez proche d'eux?
Bien, écoutez, c'est une très, très bonne question. Hein. Pas seulement par rapport à ce qu'on a vécu cet été, mais quand je suis arrivé à la présidence, moi, lors de mon parcours chez Desjardins, j'ai commencé par 5 employés à gérer, 50, 100, 3000, 6000, puis là, 45 000 comme président. Alors, pour moi, ça a été très important de savoir comment je me réincarne toujours dans ces nouvelles fonctions-là pour rester près de mes gens puis de communiquer avec eux.
Moi, ça me fascine de voir un intrapreneur devenir président. Puis c'est vraiment gros ce que vous faites aujourd'hui. Ça vous a jamais tenté de le faire pour vous-même?
C'est une très bonne question. Hein? Quand je retourne là, quand j'avais 18, 19, 20 ans. J'étais à HEC Montréal. Mon premier rêve, c'était vraiment d'être un entrepreneur, de me lancer en affaires. La vie a fait que pour plein de raisons, j'ai toujours gardé cette passion-là en dedans de moi, mais pour plein de raisons, il est arrivé des opportunités. Desjardins est arrivé sur mon chemin. Puis là, bon, j'ai commencé tranquillement. Puis là, je faisais du financement aux entreprises. Donc, j'étais encore très en proximité avec les entrepreneurs parce que je les aidais à réaliser leurs projets. Puis souvent, je me disais, ah ben là, OK, dans 4-5 ans, je vais avoir un projet ou tout ça. Puis en fin de compte, j'ai réussi à exprimer toute mon excusez-moi le terme, mais la drive que je pense que j'ai en entrepreneurship à travers Desjardins, avec un bon mot que vous avez utilisé, c'est l'intrapreneurship. Aujourd'hui, je suis capable, autant lorsque j'étais directeur général d'une caisse ou comme président, je suis capable de mettre de l'avant plein d'habiletés ou plein d'éléments qui me permettent de donner de la vision, faire des réflexions stratégiques, mobiliser des gens, communiquer, une certaine dimension politique, investir, innover. Alors, ça vient dans le fond me stimuler beaucoup, beaucoup par rapport à ça. Puis peut-être qu'après la présidence de Desjardins, ben là, j'ai quelques projets, notamment avec les enfants, la famille ou d'autres partenaires, où là, je pourrais peut-être le faire. Mais aujourd'hui, d'avoir le privilège de présider le mouvement Desjardins, quand cette organisation-là a tellement d'impact, notamment pour aider les entrepreneurs, aider les jeunes, aider les régions du Québec, aider le Canada, moi, ça me rend super fier, dans le fond. Là. Ça comble...
Parlant d'aider les entrepreneurs, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre mandat pour nous venir en aide?
Bien, écoutez, plusieurs choses. La première, c'est de reconnaître à quel point c'est tough être un entrepreneur puis vous avez besoin d'aide. Parce que... Et ça, c'est pas de l'argent seulement. Chez Desjardins, on a mis une équipe en place là, de 200-250 mentors qui peuvent, quand on met du capital de développement dans des entreprises, vous accompagner. Parfois, c'est un comité de sages. Parfois, c'est un conseil d'administration. Parfois, c'est juste une personne de temps en temps que l'entrepreneur peut rencontrer. Donc, comment on peut mettre des gens à la disposition des entrepreneurs pour des conseils, du soutien? On a soutenu des organismes comme Adopt Inc., Place aux jeunes en région. Donc, plusieurs endroits où on est capable d'aider, exactement, d'aider des gens, mais pas de l'argent seulement, mais du soutien beaucoup plus en termes de connaissances. Et au niveau de l'argent, bien, avec Desjardins Capital, on veut accroître notre capital de développement. On veut passer à peut-être 4-5 milliards d'investissements dans les prochaines années. Donc, ça, là, c'est vraiment deux dimensions sur lesquelles on va continuer de mettre de l'emphase.
Je me rappelle encore, il y a à peu près quoi, 40-45 ans, quand j'ai été ouvrir mon compte Desjardins à 15 Populaire Sainte-Colette à Montréal-Nord.
Merci.
De Saint-Piastre, bon, etc., tout ça. C'était hors de question qu'on aille nulle part ailleurs à l'époque, là, avec mes parents puis tout ça, là, parce qu'il y a un paquet de valeurs qui viennent avec la marque, hein, l'empathie, vous avez utilisé le mot soutien tout à l'heure, la coopérative, etc. Est-ce que c'est difficile en 2019 de conjuguer, conjuguer tous ces symboles-là à l'efficacité qu'on attend d'une institution financière en 2019?
Non, absolument pas. Au contraire, moi, je vais vous donner un exemple. Cet été, la situation que le mouvement Desjardins a vécue aurait pu avoir beaucoup d'impact sur la finance, sur la performance, sur le capital, sur les liquidités du mouvement Desjardins. Mais je suis profondément convaincu que nos valeurs coopératives, là, l'intégrité, l'entraide, la solidarité, être transparent, être honnête, être prêt, la proximité que Desjardins a toujours eue. C'est ça qu'on a fait cet été, dans le fond. Ces valeurs-là nous ont permis de passer à travers la situation qu'on avait à passer. Donc, je crois au contraire qu'aujourd'hui, là, les gens, là, ils veulent faire affaire, pas seulement avec une institution financière traditionnelle, mais ils veulent faire affaire avec une institution financière qui a un sens, qui a une mission qui est plus grande que strictement offrir des services financiers. Je regarde la génération des millénarios, ceux qui veulent venir travailler chez Desjardins, ils viennent travailler, puis une des grandes raisons, c'est pas seulement qu'on est une institution financière, c'est qu'ils sentent qu'on est une entreprise qui a de l'impact dans la société, qui investit dans les régions, qui est généreuse, qui est engagée. Alors, au contraire, moi, je pense que ça se réconcilie très, très, très bien. Puis quand je regarde les enjeux de la société aujourd'hui, les gens, ils veulent travailler, mais aussi être clients ou membres d'entreprises qui ont, en anglais, ils disent un purpose, là, qui ont un sens encore plus grand que strictement leur mission comme telle. Et je pense que quand les gens regardent Desjardins, ben ils se disent, moi, c'est cette entreprise-là avec qui je veux faire affaire, où je veux travailler. Pourquoi? Parce qu'elle ne pense pas qu'à faire du profit à chaque trimestre. Elle aussi, elle se sent engagée dans la société, engagée avec les jeunes, engagée avec les entrepreneurs. Et moi, je pense que c'est totalement en lien avec les enjeux qu'on a aujourd'hui dans la société.
Je veux qu'on parle un petit peu de vous aussi. Vous êtes issu d'un milieu modeste. Quand même, chauffeur, votre père était électricien, je pense, votre maman couturière, c'est
exactement.
Ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Guy Cormier, dans ce milieu modeste-là, là, a cette envie-là de viser l'université, de devenir homme d'affaires?
Bien, moi, je vous dirais, c'est essentiellement l'autonomie. L'autonomie. De par le milieu dans lequel je viens, j'ai pu constater parfois les limites ou les limites, dans le fond, que tu peux avoir, soit par rapport à ton éducation, par rapport à ton histoire, par rapport à d'où tu viens. Et parfois, ça peut freiner des projets que tu aurais le goût de réaliser ou des ambitions ou des rêves que tu veux faire. Alors, pour moi, ça a rapidement émergé que dans le fond, ce besoin d'autonomie financière, mais d'autonomie tout court pour réaliser des projets. Alors, c'est là qu'est venue l'idée ou la volonté de dire, c'est-tu quoi, moi, je vais commencer à travailler jeune, j'ai le goût d'aller à l'université parce que j'avais le goût de réaliser des choses. Puis, je voyais peut-être certaines contraintes qu'il pouvait y avoir et que l'éducation était notamment un des moyens de pouvoir grandir, puis après ça, peut-être travailler encore plus activement. Alors, c'est vraiment de là que ça vient. Ce besoin, ce désir de rapidement être autonome, notamment financièrement, mais de vous savez, Alphonse, c'est pas Relia Desjardins, là, mais tu sais, Alphonse Desjardins parlait souvent de self-help, aide-toi toi-même. Mm-hmm, moi, c'est un peu ça, tu sais. De pas juste attendre sur les autres ou de compter sur les autres, mais de se prendre en main soi-même, puis de réaliser ce qu'on veut réaliser.
Tu sais, souvent, on regarde le parcours d'une personne, puis on regarde où est-ce qu'elle est rendue, puis on se dit « Wow! » Mais comment elle s'est rendue là? Puis dans votre cas, on sait que, bon, vous avez travaillé fort, puis ça, mais je me demandais, est-ce qu'il y a un moment décisif dans votre parcours où il y a une personne qui a eu un impact majeur qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes rendue président Desjardins?
C'est pas un impact majeur, mais je vais vous faire... je vais peut-être vous faire rire. C'est quand j'ai terminé mon MBA en 2000 à HEC. Je fais mon MBA de 97 à 2000. Puis là, quand j'ai terminé l'MBA, là, c'est sûr, là, t'as plein de collègues de travail, tu reçois plein d'offres d'emploi. Puis là, les gens me disaient, ah, Guy, quitte Desjardins, va travailler pour une banque, va à Toronto, tu vas tellement faire bien plus d'argent, puis tu viens de faire un MBA, puis tout ça. Puis ça m'a un peu fouetté parce que moi, ça faisait 7-8 ans que je travaillais chez Desjardins. J'adorais cette entreprise-là, je l'adore encore. Je voyais ce qu'elle faisait partout à travers le Québec, partout à travers le Canada. Puis ça donnait un sens à ma vie puis à mon travail. Puis je me suis dit, non, c'est pas vrai. Moi, là, je vais finir ma carrière chez Desjardins. Puis est-ce que je pensais que je deviendrais président? Absolument pas. C'est arrivé 16 ans plus tard. Mais est-ce que je voulais progresser dans cette entreprise-là? Est-ce que, non, c'est pas vrai qu'il faut s'en aller toujours à Toronto ou ailleurs pour réussir? On a une belle grande entreprise québécoise ici qui est, d'après moi, un fleuron qu'il faut être fier. Bien, je vais y rester puis je vais la faire grandir. Ça m'a un peu fouetté, effectivement.
Donc, en 2016, vous êtes nommé président de Desjardins. Vous avez 46 ans à ce moment-là, 4 enfants. Ouais. Votre épouse, évidemment, bien sûr. Je suppose qu'on ne prend pas cette décision-là au hasard. Vous avez dû consulter le clan parce que ça a un impact majeur sur une famille, ça.
Écoutez, ça se passe comme ça. Hein? C'est vraiment au mois de fin juillet ou 2015 que je prends le temps de m'asseoir avec Julie, mon épouse. Après ça, avec les 4 enfants, puis je leur dis, écoutez, il y a vraiment des gens qui me voient là. Puis moi, j'ai des idées, puis j'ai de l'ambition. Mais écoutez, c'est quelques années pas mal intenses. On va se dire les vraies choses. Alors, je veux être sûr que tout le monde est on board, si je peux me permettre ce mot-là. Là. Alors, puis la réponse a été oui. Là. Mon épouse, mes enfants, ils savent que j'ai commencé chez Desjardins. Ils savent à quel point j'aime cette organisation-là. Je suis passionné du Québec, je suis passionné des régions, je suis passionné de ce qu'on fait. Alors, ils me disent, écoute, si tu as l'opportunité de pouvoir la présider, puis pendant un petit court laps de temps, pouvoir la faire avancer, puis après ça, c'est comme une course à témoins, être président de Desjardins. Hein? Tu as le témoin pendant une couple d'années, puis tu donnes le bâton quelques années plus tard, puis tu le prends de quelqu'un. Alors, ils ont été derrière moi, puis ils voient, en tout cas, ils voient aujourd'hui que je continue de m'épanouir dans cette job-là. Là.
Mais tu sais, on en parlait tantôt avant de rentrer en onde. Vous voyagez beaucoup, là, demain, je pense, ouais. Vous êtes au lac à Chicoutimi. Ouais. Mais des fois, est-ce que vous amenez les enfants?
Oui, bien, ça va dépendre. Gang, les enfants, c'est sûr que les enfants, je vais vous faire rire. T'sais, quand j'ai eu cette discussion-là en 2015, les enfants, il y avait entre à peu près 16 ans et 20 ans. C'est sûr qu'eux, ils m'ont regardé puis ils ont dit, c'est-tu quoi, papa, là, tu vas être président pendant qu'on est dans vingtaine. Fait que tu peux bien y aller, nous, dans vingtaine. C'est pas si important que ça d'être avec toi. Façon. Tu viendras nous revoir dans trentaine, tu garderas nos enfants. C'est à peu près ça, là, tu sais, à la blague, là. Mais souvent, ça va être mon épouse. Mon épouse, j'étais encore à la Malbaie il y a peut-être 2 semaines. Elle est venue avec moi. Fait que là, on passe un peu de temps. Elle aime rencontrer les gens aussi. Les gens aiment aussi voir que, tu sais, cette dimension-là familiale est importante aussi, là. Je suis pas juste le président de Desjardins dans la vie, là. Je suis un épouse, j'ai une conjointe, j'ai une épouse. Alors, les gens aiment ça, voir ce côté humain-là. Et puis, ça me permet de passer du temps avec Julie.
Je prends la balle au bon du clan, justement, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que vous avez voulu obtenir votre autonomie par rapport à votre milieu modeste. C'est tout le contraire de vos enfants présentement. Est-ce que vous avez ce souci-là?
Ah oui, tellement. Vous avez tellement raison. Écoutez, mes enfants... Il y en a un qui est en appartement sur le plateau. Il y en a un qui vient d'acheter son condo. Ils payent leur auto, ils payent leurs affaires. J'en ai une qui est à l'Université de Montréal à sa deuxième année de baccalauréat. Il y en a un qui est entrepreneur. Et puis, il est comme tout le monde. Il est un vrai entrepreneur. Il cherche de l'argent. Puis là, il essaie
il
de monter.
Les meilleurs taux
il cherche... Non. Pour l'instant, il ne cherche pas un meilleur taux. Il cherche les programmes. Il cherche les programmes qui peuvent lui permettre les créer à venir de ce monde, tout ça. Alors, je suis devenu président quand mes enfants avaient déjà 16-17 ans. Ouais. Donc, ils ont quand même bénéficié de plusieurs années où je considère là, que leur père n'était pas président de Desjardins. Puis pour moi, c'est très, très important qu'ils vivent une vie où ils construisent eux-mêmes leur autonomie et ils construisent eux-mêmes leurs propres rêves. Ce n'est pas mes rêves à moi que j'ai à leur donner, c'est leurs rêves à eux.
On parle souvent justement des milléniaux, les fameux milléniaux. Vous les côtoyez maintenant. Y a-t-il vraiment une différence entre ces employés-là?
Ah oui, tout à fait. Moi, la première différence que je vois, là, je vais prendre un terme, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça à la radio, mais les milléniaux, les millénarios, là, ils ont une capacité à détecter la bullshit là, parmi les meilleurs au monde comme tel. Là. Ces jeunes-là, là, aujourd'hui, là, ils sont intolérants face à ce qui n'est pas authentique, à ce qui n'est pas vrai. Oui, ils ont la capacité de détecter très, très à l'avance ce qui n'est pas du vrai comme tel. Ils se font pas flouer là, facilement. Alors ça, je pense que c'est des gens qui sont à la recherche de sens, qui veulent de l'authenticité, qui veulent de la transparence, qui veulent sentir qu'ils font partie d'un projet, qu'ils font partie de quelque chose. Ils ne font pas que travailler chez Desjardins. Ils travaillent pour une entreprise qui a une contribution qui est forte, qui est grande à la société. Ils travaillent sur un projet technologique. Ils travaillent sur un projet d'innovation où ils se disent, waouh, ça, c'est extrêmement gagnant. Alors, moi, ça, c'est une des grandes, grandes différences que je vois. Des gens qui sont ambitieux. Moi, je dis toujours, là, notre jeunesse aujourd'hui, là, pensons-y, là, je suis très positif et optimiste. Quand on regarde ici, là, c'est une jeunesse au Québec qui est, premièrement, qui baigne sur l'Amérique, mais qui baigne souvent aussi sur l'Europe. Mm-hmm. C'est une jeunesse qui a voyagé déjà énormément à 22-23 ans, qui connaît, qui est à l'aise avec les technologies, qui est éduquée, qui est bilingue, parfois trilingue. Mm-hmm. On a une force dans les milléniaux actuellement là, que plusieurs pays à travers le monde n'ont même pas. Alors moi, je suis très optimiste. Puis c'est le fun de travailler avec eux autres.
Guy Cormier, en terminant, pour conclure, la question qui tue, est-ce que votre équipe de hockey de Ligue de garage va faire les séries?
Bien, écoutez, honnêtement, toutes les équipes font les séries parce qu'il n'y a pas de séries.
Merci beaucoup d'être venu dans Les Dérangeants.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les
Dérangeants! Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP, la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca.
Les Dérangeants! Les Dérangeants.
Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
On est de retour avec les dérangeants et avant d'attaquer le débat, on a notre petite question dérangeante. Alors, tiens, je vous pose la question à vous trois. Avec quel dérangeant ou dérangeante est-ce que vous échangeriez votre business et pourquoi?
Ben, moi, j'échangerais avec David.
OK.
Parce que ça me passionne en ce moment. Je lis là-dessus puis je trouve ça vraiment malade mental. Là. Fait que tu me donnerais le choix demain matin puis quel type de business que je veux, ben c'est vraiment le genre de business que j'aimerais avoir.
Mais ça veut aussi dire que donc tu confierais ta business à David. Tu l'échanges.
Ben.
Oups!
Ben oui.
Ben là, apparemment, avec ce que je viens d'entendre, je la donnerais à Marie-Claude. C'est sûr. Okay. Ben oui, parce qu'il faut quelqu'un de passionné qui est excité par le sujet puis qui trippe là-dessus. Fait que c'est exactement la bonne personne.
Marie-Philippe, avec qui t'échangerais ta compagnie?
Peut-être avec Alex. Je me dis qu'il adorerait ça, être dans le retail. Okay. Moi, j'aime ça, les techs. Fait que, j'irais, j'échangerais ma business avec
Alex. Avec Alex
Mancy, ça. Puis je le sais qu'il l'a pour tout ce qui est la mode, là. Ça paraît.
Ah oui, ben oui, oui, oui. C'est une carte de mode en plan.
C'est Alex.
On va débuter notre débat, les amis. Le thème d'aujourd'hui, je le rappelle, c'est un peu plus haut, toujours plus gros. Ou si, en quelque part, c'est pas correct aussi, à un moment donné, de peut-être viser moins haut pour un paquet de raisons, que ce soit des raisons de productivité, d'efficacité ou même peut-être même de lifestyle, de ralentir un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence avec toi, tu sais, Marc-Claude.
Oui, bien, on parle souvent de croissance. Puis quelle entreprise ne veut pas de la croissance? Est-ce que c'est de la croissance à tout prix? Je pense qu'il faut se le questionner. J'ai trouvé ça drôle comme qu'on soit Marie puis moi sur cet épisode-là ensemble, parce que je me rappelle, il y a un an, on était allé manger au restaurant, la gang des dérangeants, puis Marie, elle me dit, « Dis-moi, là, je veux le milliard. »
Comme « Oui, madame. »
Le milliard? Moi, dans ma petite tête, j'avais fait comme, « Hey, j'ai jamais pensé à ça. » Tu sais, j'ai jamais eu un chiffre que je me suis dit, « Hey, moi, c'est ça mon objectif de croissance, c'est d'atteindre le milliard. » Par exemple, ma réflexion, j'ai dit, « C'est-tu ce que je veux? » C'est jusqu'où, moi, je veux aller. Puis, ça m'a ramené beaucoup à mes valeurs. Puis, pour moi, viser le milliard au niveau de la croissance, exemple, je trouvais qu'il y avait des sacrifices que, pour moi, je ne suis pas prête à faire.
Et est-ce que ça a toujours été comme ça dans ton cas? Puis, je te pose une question bien quétaine, là, mais je sais que tu as fait un voyage cet été en Indonésie où il y avait des valeurs peut-être un peu plus simplistes, je te dirais simples. Là, est-ce que ça a changé ta vision des choses? Ou,
Non, mais je suis juste quelqu'un, je pense, qui a tout le temps apprécié la vie en soi. Puis de là, je me suis emmenée questionner à dire, est-ce que je vais... Puis j'ai travaillé emmenée dans ma vie là, des heures de malade mental. Puis ça t'amène emmenée à dire, est-ce que je veux travailler pour vivre ou vivre pour travailler? Puis moi, ma vie, je veux la vivre. Je veux vraiment la vivre. Puis je suis peut-être naïve en me disant que... est-ce que j'ai peur de cette croissance-là? Peut-être. Mais je pense que c'est juste parce que moi, je suis dans une quête d'équilibre. Puis après ça, on parlait avec Marie, tu sais, tu veux des enfants? Faut que tu le calcules, ça, dans ton parcours entrepreneurial, où est-ce que tu veux justement viser la croissance, s'il y a ça qui se rajoute. Fait qu'il y a tout ça à prendre en compte aussi.
Mais ça, c'est un très bon point, parce qu'on a eu beaucoup de conversations, moi et Marie, on est les deux seules filles des dérangeants, mm-hmm. Fait que je veux pas, il y a des thèmes qu'on aborde qui sont différents des gars, puis on en a parlé. Moi, j'ai 30 ans, Marie a 31, 32. Puis moi, dans mon beat, là, en ce moment où j'ai de l'ambition puis je veux que ma business accroît, je veux pas d'enfants là.
Ouais.
Puis c'est une décision qui est plate, puis c'est une décision qui est poche à dire, parce que je suis une femme, puis on s'attend à ce que les femmes soient des incubateurs à bébés, mais moi, je veux pas d'enfants maintenant, parce que ma priorité, elle est pas là. Puis c'est correct. C'est correct de dire ça, parce que j'ai pas envie de faire ce sacrifice-là. C'est poche, mais c'est ça.
Ben, c'est pas poche.
Non, mais c'est dur pour une fille de dire ça. T'sais, on dirait que les filles, on est supposées être
nées,
sans
juger jusqu'à un certain point
puis
aussi,
on veut faire des bébés, puis on attend, mm-hmm. puis on espère. Moi, j'en veux pas là, fait que c'est ça.
David, en ce sens-là, tu en as parlé, toi, dans le dernier épisode, de cette envie d'avoir des enfants qui s'en vient tranquillement, pas vite. As-tu l'impression que ça va peut-être devenir... Tu parlais tout à l'heure de développement international. Là, ça va-tu devenir un frein peut-être à ça?
En fait, moi, je rentre dans tout tellement naïvement, en n'ayant aucune idée dans quoi je m'embarque. Puis on dirait que ça m'a toujours été une super force pour moi. Dans ma tête, puis je sais que
le tout le monde
vont penser que je suis un cave, là, mais dans ma tête, ça ne changera rien. Dans le sens que... J'ai envie de les traîner avec moi. Puis honnêtement, je fais pas des heures de fou, moi. J'ai un lifestyle assez nice quand même. Puis oui, je pense souvent au travail, etc. Mais je me fais du fun, on joue. T'sais, on est allé faire du go-kart il y a quelques jours avec notre team. Il y a un mois, on est allé faire du curling. Souvent, on prend des breaks. Fait que pour moi, des enfants, c'est juste plus de bonheur là-dedans. Fait, dans ma tête, je vais juste avoir plus de bonheur à travers mon travail parce que je vais avoir ces petites boules d'amour-là autour de moi. Okay. Mais peut-être que je suis encore vraiment naïf, on s'entend. Peut-être que je dis n'importe quoi en ce moment, mais tant mieux. Puis je veux pas le savoir que je suis naïf, gang. Dites-moi le pas. I love it like this.
Mais je m'adresse surtout, puis Marie-Claude, évidemment aussi, tu y répondras, là, mais à Marie-Claude et à David, à Marie-Philippe et à David, pour qui, là, tu sais, vous avez dit go, 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 puis on continue. C'est quoi votre coupe Stanley? Ça s'arrête où à un moment donné ou pas, ou toujours plus haut ou quoi?
Moi, dans ma personnalité, ça n'arrête jamais. Puis, tu sais quoi? C'est très négatif. Parce que tu n'es jamais content. Fait que c'est bien fatigant. Tu sais, moi, les victoires, ils ne se sont pas célébrés longtemps. Les échecs, oui, mais les victoires, ça passe bien vite, puis on passe un autre appel. Fait que c'est très fatigant. C'est un trait de personnalité que je travaille. Mais moi, ça n'arrête jamais. Il n'y en a pas de top.
OK.
Puis ça gosse.
David?
Voilà.
Hey, c'est plate,
ça, Non, c'est vraiment fatigant.
Ben oui, je comprends. Nous, on a des petites victoires, on les célèbre tout le temps. C'est sûr que ma vision à court terme, c'est d'être partout dans le monde, en fait. Europe, Angleterre, Asie, puis c'est de créer le même modèle partout. Puis on a un modèle d'affaires qui se recrée extrêmement rapidement. Tu sais, en 3 ans, on a sorti des produits dans la bière, dans les spiritueux, partout au Canada, dans les jus. On fait des savons maintenant. On peut tellement lancer de produits rapidement à cause de notre modèle d'affaires d'économie circulaire que c'est vraiment facile pour nous de faire une licence en France, une licence... La croissance n'a pas de limite, puis elle est extrêmement rapide. Fait que je me vois mondial.
OK, OK. Marc-Claude?
Ben moi, je mesure ça avec, je pense, le... Je suis négatif, là. Moi, je le mesure avec le bonheur. Puis, est-ce que j'ai encore du fun? Ouais, cool. Puis si j'en ai plus, slack. Fait que je le mesure comme ça. Puis, je sonne comme la personne qui est comme à reculons, mais au contraire, en ce moment, je travaille, puis Je capote, tu sais, j'en parle aux gens, puis je suis passionnée, puis j'ai des étoiles dans les yeux, puis j'ai le cœur gros, puis là, tu sais, je pitche mon projet, puis ça fonctionne, puis... Fait que là, en ce moment, je vois gros, puis je vois vraiment gros, puis ça m'excite. Mais en autant que j'ai ce fun-là, puis j'ai cette drive-là.
Mais à un moment donné, de ce que je comprends, c'est que tu pourrais peut-être ralentir un peu si jamais ça devenait trop gros. Or, tu me corrigeras si j'ai tort. Or, lors du dernier épisode, à une question d'une auditrice, vous avez dit « on ralentit jamais ». On ne sait jamais quand la vague va revenir. C'est ce que, à l'unanimité, ouais. Alex, David, Marie-Philippe avait dit ça.
Mais dans le fond, oui, tu sais, je ne vais jamais refuser un contrat, c'est pas ça. Moi, c'est dans l'idée de est-ce qu'en est j'ai besoin d'ouvrir cette autre succursale-là? C'est là que je me poserai la question. Est-ce que je veux ça?
C'est que ça vient de toi. C'est pas une opportunité qui est présentée. C'est
oui.
toi qu'est-ce que tu veux?
Oui, c'est ça. Pas. C'est, je veux pas dire non, tu sais, non à des contrats. C'est est-ce que je veux prendre ce step-là de plus de dire je m'en vais à l'international, exemple.
Oui, puis tu sais, on en parle, puis tu sais, on a l'air de dire ça, moi puis David, hey, on va devenir gros, c'est tellement hot, mais la réalité, là, c'est que tu peux décider d'avoir une business qui a 10 employés, tu fais 1,5 million de chiffre d'affaires, ça te donne un salaire de 200 000 par année, puis t'es bien, là, t'es heureux. Là. Mm-hmm. Dépasser ça, t'as plus d'employés, t'as plus de stress, t'as plus de gestion financière, t'as plus
puis
de
tu
tout.
Gagnes moins. Et puis souvent, tu gagnes moins. Là, puis c'est ça que les gens comprennent pas souvent dans une entreprise. T'as un plateau, mm-hmm. puis si tu veux croître, puis souvent, les gens ils vont sans le savoir parce qu'ils ont fait des mauvais forecasts, mais souvent, tu fais moins d'argent. Ma première année, j'ai jamais fait autant d'argent que ma première année, que les 7 années d'après ma première business que j'ai parti. Les 7 années, on était en croissance, on avait 9 adresses, on avait des livres, on avait des écoles. Je faisais moins de cash net là, dans mes poches. Là. J'avais un plus gros salaire, peut-être, mais l'argent net de l'entreprise là, était bien moins élevé. Hey, je faisais du cash la première année. J'avais des bénévoles.
Ouais, les gens parlent.
C'était génial.
Ils payaient pas son monde.
Il payait pas personne.
Il était comme, oh, merci,
il y avait des jeunes de 14 ans qui faisaient
mais,
ses affaires.
Mais je passais à MOP le soir souvent.
Okay.
Puis je me souviens, il y avait un livreur qui venait nous livrer des pouces. Puis ça faisait 20 ans que sa compagnie, 20 ans que sa compagnie existait. Il s'appelle Philippe. Puis il livrait encore ses pouces. Mais je me suis dit, jamais, moi, dans 20 ans, ma business, c'est encore moi qui va mopper le plancher. Il n'y en a pas question. Il faut comme que je fasse autre chose. J'étais déprimé pour lui, en fait. C'est ça qu'il m'a dit, OK, il faut que je grandisse.
Okay. Merci, les dérangeants.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fiers d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
Quand les entrepreneurs se posent des questions, ils engagent des consultants à grands frais, mais ici, on en a qui sont frais, mais qui coûtent pas cher. Je parle pas de toi, David, voyons, pas du tout. La question du jour, donc, nous vient de Lia Bégin, qui gère une entreprise qui s'appelle Beauties, qui est une destination pour les femmes qui veulent savoir comment simplifier leur routine de beauté et changer leur habitude de consommation de mode. Marie-Philippe, peux-tu, s'il vous plaît, lire sa question?
Oui, donc, Lia nous demande, en ce moment, je fais toute seule. Est-ce que c'est mieux que je me trouve une all-star mini-moi brodois ou encore une personne calée dans un domaine que je maîtrise moins, par exemple l'analyse data ou la stratégie marketing?
Marie-Claude.
On revient avec la sous-traitance. Moi, j'y crois beaucoup, mais trouve-toi quelqu'un qui est meilleur que toi. T'sais, parce que dans la vie, on veut, t'sais, pour se dépasser, il faut s'entourer de gens bons, il faut s'entourer de gens meilleurs que soi, il faut reconnaître où est-ce que nos forces sont plus limitées. Fait que moi, c'est ce que ça serait mon conseil.
C'est pas toujours simple, il faut avoir confiance en soi pour ça. David.
Très bonne réponse, MC, en fait. Puis il faut aussi, premièrement, s'assurer que tu as le budget d'engager quelqu'un, là, on s'entend. Ouais. Il faut souvent que tu regardes ça. Puis si tu engages cette personne-là, faut qu'elle soit meilleure de toi dans le domaine que tu veux l'engager, en effet. Puis faut que tu t'entendes bien avec. Faut pas que tu l'engages juste sur un CV. Faut que ça connecte. Ça, c'est mon opinion à moi. Faut que tu puisses aller prendre une bière avec cette personne-là puis que ça soit fluide. Sinon, tes journées vont être longues.
Okay. Marie-Philippe, t'es d'accord avec ça?
Bien, moi, j'irais par étapes. Quand tu commences, va chercher des freelancers. Il y a des sites Internet là, qui existent comme Upwork où tu peux engager beaucoup de gens à des frais très raisonnables là, qui vont t'aider dans un domaine particulier. Fait que moi, je commencerais avec ça. Quand tu as un petit peu plus de sous, là, tu vas pouvoir aller te chercher un bras droit puis un chef des opérations. Mais c'est sûr que question de financement, au début, t'es peut-être pas capable d'aller te chercher une personne à temps plein. Fait que moi, j'irais freelance puis après ça. Okay. Tu montes plus haut.
Léa Bégin, j'espère que ça répond à votre question. Merci d'ailleurs d'y avoir participé.
C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com/911.
C'est déjà tout pour ce premier épisode de 2020. Ça fait du bien, c'est reparti. Dans deux semaines, on va aborder le thème du doute, notamment. Ça promet d'être fascinant. Merci beaucoup. À bientôt, tout le monde.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!